qui manque des effectifs partout. Voilà. Il y a même des travailleurs sociaux, enfin en tout cas pour des assistantes sociales, qui se sont mises auto-entrepreneurs. Comme ça, elles font le travail que... Alors, elles n'ont pas les contraintes de...
Salariat.
Management de la LAN. Bon, ceci étant, travailler à son compte, ouais, ça veut dire quand même trouver des personnes qui font appel à vous et qui payent quand même, évidemment. Donc c'est quand même, voilà,
on peut en penser ce qu'on veut. Elles n'ont pas non plus la richesse du travail en équipe.
Voilà,
c'est quand même quelque chose de,
c'est
primordial
dans
le travail social.
Donc, alors, il faut faire... Ah oui, oh là là, il est déjà, oui, il est déjà l'heure. Donc, bon, Guy n'a pas l'air de trop nous faire des gros yeux, mais on est obligé de terminer parce que la radio, c'est très scandé, mais il n'a pas l'air quand même de s'en rendre compte. Quelqu'un veut...
Donc déjà, on voudrait vous remercier d'être venu à
merci à vous
à notre
pour l'invitation.
Merci beaucoup.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci à vous.
Notre
je croyais qu'on aurait une petite chanson.
Oui, j'ai promis.
Profitez-en puisqu'on est en vidéo.
Il a rien entendu.
Il a rien entendu.
Oh mon Dieu.
En direct.
Vas-y, fais la tienne.
Non.
Vas-y.
Allez, dépêche-toi.
S'il te plaît. Allez, vas-y. C'est pas grave. Allez, vas-y, celle que tu
vois.
Joyeux. Je sais pas, je vais paniquer. Vas-y, c'est night. Vas-y, vas-y, finis, vas-y, continue.
Une souris verte
qui courait dans l'herbe. Voilà.
Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile,
trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Dédicace à Chichi. Voilà, c'était pas mal.
Dédicace à Chichi.
Voilà, grosse dédicace à Chichi.
Merci.
Dédicace. Au revoir.
Merci.
Salut Chichi, on t'aime.
Merci.
Au revoir.
Merci Guy.
Merci Guy.
Merci Guy.
Le temps est bien court, d'en bas jusque là-haut. On se tourne autour et puis s'envolent les mots. Là-haut, dans sa tour, on se sent bien au chaud. Attends un peu, j'arrive, le temps de changer de rive. Quand se sont envolés les mots, est arrivé le mauvais jour. Il faisait si chaud, on se parlait d'amour. On se racontait une histoire, et le cœur y était. C'est drôle, il se fait tard, on n'en revient jamais. On se tournait autour, on se jetait à l'eau. Le chemin était plus court quand on avait du beau. C'était le début de l'histoire, on s'aimait à jamais. Mais un peu plus tard sont venus les regrets. Le temps est bien court, d'en bas jusque là-haut. On se parle d'amour, mais un jour tout sonne faux. Qu'est devenu notre histoire, garde-la bien au chaud. Il ne sera jamais trop tard, mais il est peut-être déjà trop tôt.
Au-dessus de la sûre,
pour elle pas d'école. Pas de chaussures quand les feuilles tombent. Le cheval s'arrête et le nain triste allume le bord de la piste. J'ai suivi l'enfant qui vole, qui cambre les reins. Debout dans la camisole, le maillot de satin. Quand le matin vient, qu'elle quitte la piste, que le nain triste l'emmène. Rêver de son ventre lisse comme un coquillage. Quand le matin vient, qu'elle quitte la piste, que le nain triste l'emmène.
À cœur. Des paquets de rêves opalines, une odeur vierge dégouline. L'orgue c'est pour une autre fois, quand tu gueules, moi je te vois comme sur les rails avant-guerre. La machine fait des manières. Prends-moi madame, mon amour, stop, je t'ouvre et puis je te fais hop et hop. Bien que je fasse la machine sur ta psycho qui se débile. Ça vous prend dans le fond du feu et puis ça monte et c'est le feu. Attends que je t'ouvre la pente, accroche-moi, je prends la rampe. Le prolongement de mon bec quand tu l'avales, c'est cul sec. La mer en toi, c'est l'Atlantique, et je te traverse en musique. Allez, viens, 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 viens que je sorte mes habits, c'est l'heure où l'assassin jouit, et tu verras comment je cours mon navire dedans ta goule. Ça s'ouvre et ça fait va-et-vient, viens que je vienne où tu veux bien.
vous prendre à la cathédrale au moment où sente l'espoir. Te lave pas tes purassés, je vous envoie tout mon passé. Viens que je vienne et qu'à toi colle cette ferveur que tu racoles. Ton électrique destinée se traîne à mes vis platinées. Je te parle comme on s'explique quand Mozart met en musique. Je t'ai prise sur le pavé comme une fleur de la marée. Et je te prends dans ma comète avec ton ventre que je jette. Au Labrador, on dormira avec des rennes dans les bras. Ton coquillage, je le perce. Il fait de l'eau. Et ça me gerce. Les fuseaux brillent à ton poignet, je te baise au mois de mai. Ton odeur sent pas la barrique, c'est ta marée qui tient boutique. Tout à l'heure avec tes fuseaux, on baisera à Mexico. Oh oh, la crème fauve de maquille sur ma bouche me réfie. Je te prends dans mon ascenseur, ma pute, mon enfant, ma sœur. Dans tes yeux je traîne ma ligne et dans tes flancs je pique un signe. Je suis ton bien et ton péché, tu es mon mal et tu le sais. Ma grappe est blanche et tu la presses avec mon ventre dans ta caisse. Et si ton cœur a ses raisons, ton cul a pourtant des façons que ma folie ne comprend pas, et ma raison te doit bien ça. Et quand tu trafiques des voiles pour le gros temps, c'est dans ta cale que je me donne à boire un peu de cet alcool des amoureux. Tu es ma montre religieuse, mon amante et puis ma veilleuse. C'est de ta rage qui s'étend, de tes dents, jusque-en dedans. Ton écume qui me fastille, c'est la mer après la mastine. Le mauve de ta fleur en sang se perd dans la toile du temps. Regarde, c'est une oraison qui descend droit sur ta maison. Les anges qui font la vaisselle ont des diamants sous les aisselles. C'est le bienfait de la machine, la folie qui te dégouline. Et ta main qui baigne dans toi me passe l'arc-en-ciel au doigt. Tu es ma seule identité dans les bras de ta charité. Dans la galaxie, on ira avec la mort entre nos bras. La machine jetant ses feux, y'a plus de raison d'être deux. Ton coquillage, je l'explique en y ajoutant la musique. La musique dodécacophonique même, si tu veux. Allez, salut, belle!
La porte est ouverte au jardin. Je me suis dit, doit y avoir quelqu'un. Ça fait pas un bien grand détour pour vous dire un petit bonjour. Ne vous dérangez pas d'un brin. Je n'ai vraiment besoin de rien. C'est juste une envie de toujours de vous dire un petit bonjour. Nous sommes quasiment voisins depuis des temps déjà lointains, mais ça fait loin les alentours pour se dire un petit bonjour. J'ai pris mon courage à deux mains pour pas remettre au jour prochain ce qu'aujourd'hui je pouvais pour vous dire ce petit bonjour. Peut-être
Peut-être qu'un jour, que demain, nous parlerons un peu plus loin et nous nous tiendrons des discours en guise de petits bonjours. Peut-être nous ne dirons rien, qu'on ne s'entendra pas très bien. Voilà le danger que l'on court à se dire un petit bonjour. Que l'on soit content ou chagrin, pardonnez ce zèle soudain qui m'a fait rentrer sans tambour pour vous dire un petit bonjour. La porte est ouverte au jardin, je me suis dit, doit y avoir quelqu'un. Je repartirai par la cour pour rentrer chez moi, c'est plus court.
Roi des petits boutons, roi des petits boutons, roi des petits boutons. résonner mes pieds sur l'asphalte, souffle tapant dans mes tympans, je cours. Allonger la foulée de rêves, je suis plus dans le marche ou crève, je cours. Entre les blocs, entre les grilles, et dans l'intérêt des familles, je cours. Je déroule le tissu urbain, entre Italie et Pantin, je cours. Et puis la montée d'endorphine, c'est meilleur que la cocaïne, je cours. Je cavale dans le monde entier, et personne ne me court après, jamais. Je cours. Maintenant plus rien ne m'arrête, je suis un nuage, une flèche, je cours.
Thank you. Sono le 22:30.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue sur Libertaire. De toute façon, vous étiez déjà avant précédemment bienvenue, puisqu'on vient de relayer une émission en direct. Et nous continuons en direct toujours le programme sur l'antenne de Radio Libertaire. Ce soir, je suis avec Guy. Non, pas du tout. Je m'embrouille déjà. Je suis avec Serge.
Bonsoir, Henrik.
Bonsoir. Alors, j'ai pas de casque puisque je l'ai prêté à Irène. Bonsoir, Irène.
Bonsoir, chérie d'amour.
Alors, est-ce que tu as bien le micro jaune ?
Oui, j'ai le micro jaune.
Vous confirmez ?
Oui, oui.
Voilà. Okay, j'ai pas de casque, donc je peux pas. Je vais prêter mon casque.
Mon micro est à. Tu peux parler un peu plus.
Allô, voilà. Allô.
Mon micro est ça.
Alors, ton micro, c'est lequel ?
C'est le
orange.
Orange.
Orange, ça me donne aucune indication. Je ne sais pas lequel c'est, le orange. Il y a un numéro avec. Un chiffre, un numéro.
Le O.
Sur le boîtier.
Le 1 ou le O.
C'est un problème, le micro dont je parle. C'est pas de casque. Hein. Le casque, ça va. Voilà.
Ah ben, je le monte. Et enfin, il y a Yves.
Bonsoir.
Alors, désolé, on est un peu perturbé ce soir. La soirée est un peu... c'est annoncé un peu différemment de ce qu'on aurait pu penser. Ça arrive. Hein. Tout ne roule pas comme sur des roulettes. Et tout n'est pas comme un long fleuve tranquille. Donc Radio Libertaire 89.4, radio-libertaire.org, anarchiste.info, les Mixcloud, etc. Je commence, comme d'habitude. Je suis un peu perturbé parce qu'il vient d'arriver en off et dont je ne peux pas parler à l'antenne. Évidemment. Les événements de la librairie Publico dimanche après-demain, et j'y serai certainement puisqu'on m'a gentiment invité à venir, le phare, le front homosexuel d'action révolutionnaire, projection débat à l'initiative du groupe libertaire de la fédération anarchiste, c'est à 16h30. Donc si vous voulez me rencontrer en vrai, je serai là, je m'appelle Henrik, et on fera connaissance. Mercredi 21 février 20h, encore du film, Villa El Salvador, les bâtisseurs du désert, un documentaire réalisé et écrit par Jean-Michel Rodrigo et Marina Pogam. C'est un film de 2008. Et enfin, pour clôturer le mois de février, le dimanche 25, 15h30, causerie populaire et libertaire, paysannerie, pesticides, non merci. Je pense que c'est passé un peu d'actualité sur les médias mainstream, mais ça reste toujours d'actualité en fait. C'est pas quelque chose qui passe comme ça, et un questionnement de tous les jours, et ici de toute façon Yves nous enchante à chaque fois avec ses articles interminables sur la pollution, eh bien ça reste d'actualité. Nous sommes ultra pollués, et en fait de transhumanisme, je pense que en fait, de transhumanisme via les machines, via la technologie, on est déjà des transhumanistes via la pollution. Déjà, enfin, c'est peut-être quelque chose dont on parlera.
Enfin, disons, notamment un dixième des femmes, si j'ai bien compris, qui se tapent un cancer de sein actuellement en France. C'est énorme, non ? J'ai entendu ça à la télé, je n'ai pas vérifié. Allô, ça bourdonne là.
Oui, parce qu'il y a, je crois qu'il y a...
Oui, mais il ne faut pas oublier aussi le cancer des poumons qui monte énormément actuellement.
Ah, on va parler cancer ce soir.
Non, c'est toi qui as orienté le sujet vers la pollution.
Voilà, on parle de pollution.
Donc on est en fait déjà des êtres transhumanisés. On est passé à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'on est complètement tous pollués en fait. Tous imbibés de pollution, en plus de celle qu'on s'inflige, c'est-à-dire une bouffe pleine de trucs dedans, de l'alcool, de la cigarette, de la drogue. Et voilà, on est complètement en pleine métamorphose. Et c'est selon les organismes humains, on le supporte plus ou moins. Avant de continuer, un petit morceau et on revient tout de suite après, évidemment.
Thank you.
Radio Libertaire, 89.4, Radio Libertaire. Je me suis trompé de micro. Est-ce que c'est le bon pour toi, Serge ?
Je pense que c'est le bon, oui, absolument.
Oui, voilà.
Moi, j'entends
entre
tout.
Le noir et l'orange. Et
j'entends tout, moi aussi.
J'entends même des crapauds. Ça, je sais pas si c'est normal.
C'est grand place.
Par contre, montre un petit peu ton micro.
Le mien.
Voilà.
Ouais. Ah, bah, je suis sans casque, c'est ça.
Voilà.
Je suis non casqué.
Voilà.
Ah, bah, c'est très bien.
Donc, je fais. Et donc, Yves.
Je comptais parler d'un article, de deux articles, à vrai dire, qui concernent la même personne. C'est Robert Badinter. Il y en a un dans Le Monde du jeudi 15 février 2024, qui est écrit par M. Christophe Soulard, qui est le premier président de la Cour de cassation, et qui explique dans un article sur deux colonnes, page 25, donc pourquoi Badinter a tant compté pour les juges. Et il rappelle que l'ancien garde des Sceaux a toujours souligné la place essentielle qu'occupe la justice dans le fonctionnement de la démocratie et dénoncer ceux qui en sapent les fondements par des propos inconsidérés. Je vais zapper un peu le premier paragraphe qu'il a écrit, donc ça soit inintéressant, mais pour gagner un peu de temps. Il écrit ensuite, sans chercher à dissimuler des dysfonctionnements qu'elle peut connaître, M. Badinter a tenté de faire comprendre les difficultés inhérentes à la mission du juge. Il n'a eu de cesse de rappeler que la France bénéficie d'une magistrature intègre, bien formée, qui, malgré un sous-effectif reconnu, assume ses tâches avec un dévouement exceptionnel. Il a rappelé la place essentielle qu'occupe la justice dans le fonctionnement de la démocratie et dénoncé ceux qui, dans une démarche mortifère pour l'ensemble des institutions, en sapent les fondements par des propos inconsidérés. À contre-courant du populisme pénal qui propose des réponses simplistes à l'émotion que suscite légitimement la délinquance, il a rappelé à de multiples reprises que la justice n'est ni la vengeance, ni une instance de thérapie, et qu'elle doit respecter un équilibre entre les droits des victimes et ceux des personnes poursuivies, et que la non-rétroactivité des lois pénales et l'individualisation des peines sont des principes essentiels. Pour défendre le statut particulier des mineurs délinquants, il faisait valoir par l'une de ces belles formules dont il avait le secret, que ces derniers ne sont pas des majeurs en réduction, mais des êtres en devenir. On connaît l'intérêt profond, inquiet et constant que Robert Badinter a porté aux conditions de vie des détenus, conscient là encore d'être en décalage avec l'opinion publique. Il faut néanmoins assumer ce décalage et rappeler sans cesse qu'une société qui n'offre pas aux détenus des conditions de vie dignes non seulement perd ses repères moraux, mais emprunte la voie la plus sûre qui conduira à une augmentation de la récidive. La Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation ont rendu des décisions importantes et convergentes sur cette question. Elles n'ont pas suffi. Et il est à craindre que l'injonction humaniste de Robert Badinter résonne encore longtemps à nos oreilles. La protection des droits de l'homme, notamment dans sa dimension européenne, fut de manière générale l'une des lignes directrices de Robert Badinter. Il était garde des Sceaux lorsque la France a ratifié le protocole permettant à chaque individu de saisir directement la Cour européenne des droits de l'homme. On ne soulignera jamais assez ce que notre pays tire de ce regard extérieur et mesuré que porte une Cour internationale sur le fonctionnement de notre justice. On doit aux décisions de la Cour de Strasbourg le renforcement de nombre de nos libertés publiques. Elles nous ont également amené à nous interroger sur l'adéquation entre notre droit et certaines évolutions majeures de notre société, notamment dans le domaine des mœurs et des relations familiales. Il n'y a pas si longtemps, ce qui nous apparaît aujourd'hui peu discutable, par exemple la condamnation des discriminations envers les homosexuels ou à l'égard des enfants nés hors mariage, faisait l'objet d'âpres débats. Robert Badinter y a pris toute sa part dans le sens que chacun connaît. Au-delà de ses prises de position relativement à tel ou tel sujet, il a su rappeler combien il est important de respecter les décisions de justice, y compris lorsqu'elles émanent de juridictions internationales. On aimerait que cet appel soit entendu. Robert Badinter nous a quittés quelques heures avant que les élèves magistrats de la grande promotion 2024 ne prêtent serment en présence du président de la République. Pour cela, que j'ai pu rencontrer, il ne représentait pas le passé, mais était porteur d'exigences présentes. Exigences d'excellence dans le savoir et la rigueur de pensée, de probité morale, de dévouement à l'intérêt général. Puis ces exigences habitaient toujours nos futurs collègues. Au-delà de leur métier, ils pourront, comme nous, puiser une leçon de vie dans celle de ce grand humaniste qui, jusqu'à son dernier souffle, à chercher à comprendre et à agir, à travailler, à écrire, à confronter sa pensée à celle des autres, sans jamais rien céder sur les grands principes dont dépend notre capacité à vivre ensemble. Un article très poli, donc, de M. Christophe Soulard, qui est quand même le premier président de la Corse et Cassation, ce qui n'est pas rien. Et par contre, dans le Canard enchaîné, il y a quelque chose de plus direct, parce qu'il commence par rappeler, en égratignant un certain nombre de gens avant, mais disons, je ne vais pas m'arrêter à ça, que c'est grâce à lui qu'on a eu la suppression des tribunaux permanents des forces armées, et que la Cour de sûreté de l'État, une juridiction d'exception créée par De Gaulle pour être à la solde du pouvoir exécutif et où siégeaient des militaires habillés en magistrats, donc c'est grâce à lui que ça a disparu. Et avec ce programme, évidemment, M. Badinter, rappel de canard, ne s'est pas fait que des amis. En 1983, la place Vendôme recensissait de Badinter assassins, lancés sous les fenêtres du ministère de la Justice par des poulets d'extrême droite et par les troupes de Jean-Marie Le Pen. Sur cette même place où doit être rendu ce mercredi, donc c'est fait, puisqu'on est vendredi, un hommage national à sa mémoire. Bon voilà, deux tons donc pour saluer, le canard étant peut-être plus combatif et le président de la Cour de cassation naturellement plus consensuel. Mais j'ai trouvé l'article de M. Soulard extrêmement, c'est extrêmement singulier et intéressant ce qu'il écrit. Il a eu l'occasion de discuter directement avec Badinter à plusieurs reprises, comme il explique au début de l'article que j'ai zappé. Et voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler ici. That's all, folks.
Ok, morceau, et on passe à la suite. Thank you. De poste non radio show sur Radio Libertaire. La programmation musicale ce soir, c'est encore une session vinyle qui continue. Des titres de différentes époques, de Rapture, qui ont ouvert la session 2013, The Wire 1986 et à l'instant de Charlatans 1991. Et puis pour clôturer cette émission tout à l'heure, il y aura un disque conceptuel de longues plages d'environ 18 minutes chacune, donc à peu près, je sais pas, 30 minutes, 30 et quelques. Merci Serge. Donc,
merci le professeur.
Professeur Serge. Holger Souquet du groupe Can et le producteur, Rolf Damers. Très peu de temps après la fondation du groupe Can, un an après, en 1968, Holger Souquet s'essaie au sampling et il va à travers ses voyages dans le monde et surtout en Asie faire des enregistrements qu'il va ensuite conceptualiser, enfin mélanger à de l'électronique, ce qui donne cet album absolument génial, sublime, superbe, qui s'appelle Galaxis 5, qu'on s'écoutera à la fin, donc paru en 1969 et réédité récemment. Il n'y a pas la date sur l'album de la réédition, mais elle est assez récente ces dernières années. C'est d'une pure beauté. Je vous laisse attendre la fin de l'émission pour écouter ce chef-d'œuvre musical. En attendant, pourquoi Irène est là? Parce que, quand même, tu l'as dit tout à l'heure, Yves, bon, t'as pas trop envie de parler, mais nous, on a envie de parler, on a envie de savoir, Irène.
Savoir quoi?
Savoir qu'est-ce qui se passe dans ce coin de terre de France, très loin.
Dans l'océan Indien, tu veux dire?
Dans l'océan Indien.
Mm-hmm.
Ce territoire qui s'appelle Mayotte. Alors toi, tu viens pas de Mayotte, tu viens de Madagascar.
Exactement. C'est pas la même chose, mais j'ai habité pendant des années avec les Comoriens, les Maorés. Je ne savais même pas que c'était des Maorés parce qu'à l'époque.
Où est-ce que tu as habité avec eux?
En ville, à Diego-Suarez, à Madagascar, dans le nord de Madagascar. Une ville qui s'appelle Diego-Suarez et que maintenant s'appelle Antsiranana.
D'accord.
Et il y avait beaucoup de communautés comoriennes, parce qu'avant c'était les Comores, c'était français les deux, après ils se sont séparés.
Il y a plusieurs îles, il y en a 4-5, c'est ça? Exactement, combien d'îles?
Sur Madagascar, Comores.
Il y en a 5, je crois.
Ah, je ne sais pas, il y a Comores, il y a Mayotte, et après... Il y a d'autres, des îles éparses, un petit peu, à côté.
Bon, ok. Donc.
Et puis, y a la Réunion qui est à côté, ça fait partie aussi de l'océan Indien, donc il y a beaucoup de communautés, maorais et...
Où se trouve exactement la Réunion par rapport à Madagascar?
C'est en face, c'est à une heure de vol... De toute façon, la Réunion, pourquoi on appelle la Réunion? La Réunion, c'est comme le nom l'indique, c'est Malgache, Comores, Maurice, enfin tout l'océan Indien. C'est pour ça qu'on appelle la Réunion d'ailleurs.
Ah oui, c'est une région donc où les gens voyagent beaucoup, se rencontrent, habitent.
Voilà, mais l'origine des Réunionnais, les vrais Réunionnais, les origines, d'après ce que j'ai appris, ils descendent des Malgaches, du sud, des Malgaches du sud. Mais après, la Réunion, voilà. c'est une île, c'est comme toutes les îles, hein, l'océan Indien. Mais le Mayotte, moi je trouve que c'est dommage qu'ils ont séparé ces deux îles, mais c'est je pense que c'est les Comores qui ont décidé de garder, d'avoir leur indépendance, et Mayotte a voulu rester français. Et maintenant, les Comoriens, ils immigrent à Mayotte, d'après ce que j'entends, je confirme pas, mais il y a beaucoup de problèmes vu tous les...
Certains disent que le gouvernement comorien enverrait des gens sciemment pour...
Moi, ce que j'ai entendu du gouvernement comorien, c'est que considérait que le statut de Mayotte, ça n'existait pas, que les Comores, c'était les Comores, que c'était toutes ces îles, et que ce qu'on faisait là, nous les Français, n'avait aucune espèce d'importance, ça n'existe pas. Et donc, ils ont le droit de se déplacer comme avant l'indépendance des Comores et le fait que Mayotte soit devenu, soit resté français, puis devenu un département français plus récemment.
Bah oui, mais ils peuvent pas se déplacer comme ça. À ce moment-là, les Malgaches, ils peuvent aussi se déplacer d'aller à Mayotte sans avoir des papiers, sans avoir un visa, sans avoir, ils peuvent se déplacer parce que c'est nos compatriotes, c'est nos voisins, c'est nos cousins. On a toujours cohabité ensemble. Mmh. Alors pourquoi? Bon, c'est vrai que
malgré la distance.
Il y a 70 km, je crois.
En vol d'oiseau, en avion, il y a une heure d'avion pour aller de chez moi dans le nord. En tout cas, nous, à Diego Suarez, on est très, très proche. D'ailleurs, à Diego Suarez, la population est composée presque de moitié comorien. J'appelle ça comorien parce que quand j'étais petite, je ne connaissais pas du tout la différence entre les Maorés et les Comoriens. Pour moi, c'était des Comoriens à l'époque. Et voilà, c'est à côté, quoi. On est des cousins, en fait.
Et tout le monde parle français?
Oui.
Il n'y a pas d'autres langues?
Ah ben si, ils ont... Si. Les Comoriens, ils parlent le Swahili, je crois. Je pense que c'est le Swahili. Mais on se comprenait en français. De toute façon, nous, à Madagascar, il y a tellement d'ethnies. Les ethnies sont tellement énormes qu'entre nous, malgaches, on ne peut même pas se comprendre. Mmh. On est obligé de parler en français parce que... C'est impossible de se comprendre. Il y a une langue, effectivement, il y a une langue malgache. Mais à mon époque, on n'apprenait pas à l'école. Maintenant, on apprend à l'école. Mais après, chacun garde sa langue ethnique. Donc, on ne se comprend pas. On est obligé de se parler en français. Je pense que maintenant, à l'école, comme on apprend beaucoup la langue malgache... ils arrivent à convertir, mais il y a des endroits, je pense pas qu'ils y arrivent. Mais avec les Comoriens, on a toujours cohabité et ça s'est toujours bien passé, sauf que maintenant, je crois que Madagascar devient un petit peu... L'Arabie Saoudite, tout ça, ils ont mis quand même un petit peu leur veto. Maintenant, on trouve des mosquées qui poussent comme des champignons tout au long de la rue. Donc, moi, ça fait un moment que je ne suis pas retournée, donc je ne peux pas vraiment affirmer tout ce que je dis, mais je le lis et j'entends parler aussi. J'ai bien peur que ça va devenir comme certains pays. Parce que voir les mosquées pousser comme ça, c'est pas terrible. Pour moi, personnellement, c'est pas terrible. Parce que moi, je vois des personnes qui ont été baptisées, par exemple, qui ont une famille catho et tout. Maintenant, ils sont... et on les voit... ils vous parlent, c'est leur droit, chacun a son droit de changer de religion. Mais là, je trouve que c'est un petit peu excessif.
Pour revenir à ces échanges de population entre ces îles, finalement, quand même, il y a quand même une distance.
À la distance, c'est en avion et après...
Oui, mais là, il ne s'agit pas de distance en avion, Irène, il s'agit de distance en bateau.
En bateau, il n'y a que l'immigration. Ils y vont sur les barques pour traverser, par exemple, de Madagascar aux Comores. Ça prend une nuit. Si la barque, elle se retourne, dernièrement, il y a eu je ne sais pas combien de morts parce que les gardes côtiers les ont interpellés. Et la barque s'est retournée, il y a eu des morts. C'est pareil, de Comores à Mayotte, c'est pareil. Ils passent par bateau. Bien sûr, ils passent par bateau. Ils ne vont pas passer par avion, à moins d'avoir un visa. Ils ne peuvent pas se déplacer sans visa. Que ce soit... Même les Maorés, et ça, je suis très étonnée, on dit que c'est la France... Ils sont obligés, et ça, je le sais parce que j'ai une nièce qui est venue il n'y a pas longtemps, ils sont obligés d'avoir un visa. Mmh. Parce qu'ils ont une carte de séjour, ils sont obligés d'avoir un visa. Mmh. Alors, la France ou pas la France, ils ne bénéficient pas du même traitement en France. Même, et on dit que...
Même au niveau du droit du sol, il y a des restrictions effectivement qui sont récentes. Puisque il faut que la mère ou peut-être même le père, je ne sais pas,
la mère qui doit accoucher sur le sol.
La mère doit accoucher sur le sol.
C'est la mère qui accouche.
Et doit prouver. Il y avait une suite à ma phrase. Je sais bien que ce ne sont pas les hommes qui accouchent. Ah, ils me prennent pour un ignorant dans cette radio, c'est pas possible. Enfin, j'aurais au moins appris ça. C'est les femmes qui accouchent, exact.
Oh, ça va.
Mais elle doit prouver qu'elle était en situation régulière 3 mois. Avant l'accouchement. Donc c'est ça le
Irène, statut
qui est différent par rapport à ce qui se passe en France.
C'est normal parce que avant en fait ce qui se passait c'est que les femmes quand elles étaient enceintes elles faisaient tout pour justement traverser aller accoucher à Mayotte justement pour pouvoir l'enfant est né à Mayotte. Et automatiquement, il va avoir la nationalité française. Donc, la mère, donc on ne peut pas chasser la mère. Et en France, ça existe, ce genre de choses. Hein.
Alors, attendez.
Mais en fait, ce n'est pas si simple.
Attendez. Mmh. Moi, je voudrais rappeler que moi, je suis fils d'étranger espagnol. Et quand je suis né, alors, j'entends des politiques dire oui, le droit du sol, machin. Ce qui est absolument faux. Moi, je suis né à une certaine époque où mes parents étrangers ont dû aller à la mairie me faire nationaliser.
Naturaliser.
j'étais dans tellement de...
Ouais, mais à quel âge?
J'étais récemment né. Mes parents sont allés
en France
à la mairie,
oui.
Et là, ils devaient faire la démarche. Quand tu entends des politiques dire le droit du sol a toujours existé, etc., c'est absolument faux. Ce n'est pas vrai. Il y a encore... Alors, j'ai pas envie de dire mon âge, c'est pour ça que je dis pas l'époque.
Excuse-moi, Enrique, je t'interromps parce que le droit du sol existe. Mais on te laisse le choix à 18 ans.
Oui. Non.
Si, actuellement, c'est ça.
À 18
ans,
on te laisse le choix si tu veux prendre la nationalité.
Non, attends, excuse-moi. Je ne vais pas dire mon âge. Je refuse de dire mon âge.
Mais tu as raison, tu es tellement jeune.
Attends, mais... non, parce que je vais être forcé de le dire, mais je ne veux pas le dire. Mais quand je suis né, ce n'était pas... Comme ça, c'était dans les années 70.
Oui, mais il y a eu un tas d'ajustements ensuite.
Attends, c'était dans les années 70. Ouais. Je ne vais pas préciser quand, parce que je refuse, donc je répète, je ne veux pas dire quel âge j'ai. Non, mes parents ont dû aller à la mairie déclaré qu'il voulait me, me
naturaliser français.
Ouais, mais donc, en 70, déjà, il y a un mensonge. Déjà, il y a un mensonge de la part des politiques en disant le droit du sol, il a toujours existé, c'est pas vrai. C'est absolument faux.
Non, non, quand on rentre dans le détail, il y a de nombreux. Enfin, c'est pas une constante de loi française.
C'est absolument faux, je suis désolé. Enfin, à l'époque, on était tous, nous, les enfants d'émigrés. Nos parents devaient aller à la mairie pour déclarer que leurs enfants, ils voulaient qu'ils soient français. Donc déjà, c'est à ce point.
Je crois qu'actuellement,
c'est juste pour dire
que... Il y a,
non,
y a un truc vers l'âge de 13 ans... Et
non,
un
c'est
vers
pas
l'âge
pour
de
dire...
Ans.
Non, attends, je Yves, sais plus ce qui se passe, stop.
Mais non, mais ça a changé depuis
que... Je crois que c'est à 18 ans que tu décides, à ta majorité, si tu veux
peut-être,
prendre ta nationalité française. Mais tu peux aussi, je sais que j'ai une personne que je connais très bien, à la naissance, parce que le père était français, il l'a reconnu, il est français. Donc suite à ça,
mais il faut elle, que a tu reconnaisses tes enfants.
Elle a eu une carte de séjour française, parce qu'elle a bénéficié... Parce qu'elle avait
un parent français, c'est bon.
Il avait un parent français, mais l'autre personne n'avait pas de papier. Mais elle a réussi à avoir une carte de séjour parce que son fils était français. Mmh. Or qu'ils étaient déjà séparés, bien sûr.
Et même ce que je veux dire, c'est que avant, il y avait une démarche à faire. Ce qui n'est apparemment plus, ce qui n'est plus le cas.
Ah si, il y a toujours des démarches. Toujours des démarches.
Si les deux parents sont étrangers, il y a toujours des démarches. Ensuite, le détail, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ça, je n'ai pas travaillé le sujet.
Ah ok.
C'est un peu compliqué. Hein.
Ah, il y a toujours des démarches à faire, ça c'est sûr. Il y a toujours tout le temps des démarches à faire là-dessus. Ça ne se fait pas automatiquement. Il fut un temps, je crois... Ça se faisait automatiquement. À partir du moment où tu es né sur le sol français, tu pouvais acquérir la nationalité française automatiquement. Mais maintenant, ils ont changé. Je ne sais pas depuis quand, je ne peux pas vous le dire. Et il y a eu beaucoup de changements d'ailleurs. Et maintenant, je crois que c'est à 18 ans, si deux parents étrangers... tu décides de ne pas avoir la nationalité française et garder la nationalité de tes parents.
Donc tu as la nationalité française avant tes 18 ans, c'est ça ?
Non, avant tes 18 ans, je pense, oui.
Je ne sais pas ce qu'ils ont avant 18 ans.
Avant 18 ans, mais tu peux choisir. Par contre, je ne sais pas, oui, avant tes 18 ans, qu'est-ce que tu as comme nationalité ? Tu es français, oui, je pense. Je crois que c'est ça le droit de sol. Ça change tout le temps.
Le droit de sol, c'est que tu es automatiquement français.
Oui.
Non, mais ça, de fait, ça existe.
C'est pour ça que vraiment... je parlais, Irène, c'est pour ça que je parlais de mon cas en disant que mes parents, tous les deux étrangers, avaient dû faire la démarche pour me rendre français.
Ah ben, ils n'étaient pas extra.
C'est ça la différence.
L'Europe
c'est ça que
n'existait pas.
Depuis tout à l'heure, vous discutez en disant qu'il y a une différence.
Non, mais l'Europe n'existait
la différence,
pas
c'est
en
ça.
70
Pardon.
L'Europe n'existait pas en 70
À mon...
Ah si
Non. Quand, non
L'Espagne n'était pas
non,
déjà
non,
dans...
Non, c'est après qu'elle est venue.
L'Espagne n'était pas dans le... Ah bon.
Non, elle n'était pas... Putain, arrête. On va deviner mon âge.
Bah non.
On va deviner mon âge. Non, l'Espagne n'était pas dans l'Europe à l'époque.
Est-ce que ton année de naissance est un nombre premier, Henrik?
J'ai pas compris, répète.
Est-ce que c'est un nombre premier?
Va te faire foutre.
Il a dit, déjà là, on a mis vachement sur la piste, alors on va arrêter là-dessus.
Non, mais
c'est
voilà.
Un jeune homme.
C'est par rapport à ça, c'est ce que je veux dire, c'est que... À une époque, c'était tes parents qui étaient obligés d'aller à la mairie.
Non, mais je...
Et après,
la situation
c'est
actuelle,
ça qui a changé. Excuse-moi Yves, pardon de te couper, tu me coupes sans arrêt. C'est ça qui a changé dans la loi. C'est après quand cette loi est passée, tu n'étais plus obligé en tant que parent étranger de déclarer ton enfant puisqu'il était automatiquement français. Moi, quand je suis né, je n'étais pas français. Alors, quand je suis né dans
c'est
un hôpital...
C'est à vérifier tout ça.
Attends, Irène. Je suis né dans un hôpital français, mais je n'étais pas français à ma naissance. Donc, la loi a changé. Donc,
Alors, t'avais quelle nationalité à ta naissance pour essayer de faire le trou dans la raquette, là, pour
voir alors,
ce
le trou
passe.
Dans la raquette, c'était que
pendant
j'étais...
les quelques heures où t'as pas été français, où
mes
t'étais
parents...
français,
alors, mes
avant
parents...
d'avoir le papier.
Mes parents sont espagnols.
Alors, t'étais espagnol ?
Mes parents sont espagnols, donc j'étais espagnol.
D'accord.
Voilà. Ah. Et donc, le trou dans la raquette, c'est qu'il a fallu passer le trou et me faire français.
Je viens d'avoir un message, là, quelqu'un qui dit que droit ne veut pas dire obligation. Non ?
Ah, ça, c'est Alex. Alors, droit ne veut pas dire obligation.
Ben
ah
oui.
Ah, ça, c'est compliqué comme truc, hein.
Ben non, c'est simple. Tu as le droit, tu n'es pas obligé.
Voilà. Tu as le droit, mais tu n'es pas obligé, ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs.
On n'est pas obligé de quoi ?
Bah, t'es pas obligé de t'es prendre pas... la nationalité française, d'après ce que j'ai compris. Hein. T'as le droit, mais si tu le veux pas, à 18 ans, tu peux choisir.
J'aurais choisi quoi ?
Bah, tu aurais pu l'espagnol.
C'est ça, en vivant en France.
Bah, ah bah oui, pourquoi pas, il y en a beaucoup. Regarde, les Roumains, ils sont dans l'Union Européenne, mais...
Il y a des gens qui vivent en France depuis une éternité, des pays du Maghreb, et qui refusent de prendre la
nationalité. Exactement.
Ma mère, par exemple, ma mère...
Personne n'est sans mère pour autant, j'espère, mais voilà.
Mais, il y en a beaucoup, oui.
Attendez...
Il suffit
Ah oui, mais ceux-là, attention, ceux-là, parce qu'ils n'ont pas le droit à la double nationalité.
Je ne sais pas.
Ah oui. Parce que quand tu as droit à la double nationalité, tu es en France, pourquoi tu t'enquiquinerais si, tu habites depuis des...
Je ne sais plus si c'était un...
Tu renies personne.
C'était un vieux monsieur à la télévision d'origine. Alors, je ne sais pas si c'est marocaine ou algérienne. Je suis désolé de la confusion que je fais. Les Marocains et les Algériens ne vont pas être contents. Vu les... Mais donc, je ne pense pas qu'il y ait Non, il ne voulait pas. Il avait une sorte de rancune, sans doute, de la... Attends, les immigrés en France, dans les années 60-70, ils ont été traités de façon... ils peuvent en avoir gros sur la patate pour certains, disons. Ensuite, la situation a évolué, mais bon.
Va évoluer, pas tant que ça, hein, je pense pas. C'est un peu caché quelque part, mais...
C'est autre chose.
C'est pas pour rien qu'on a sorti un film sur les tiraillés sénégalais il n'y a pas très longtemps. Hein. C'était pour montrer un petit peu que les enfants des émigrés, ils ont des rancunes quand même, mais ils y pensent.
Voilà.
Hein
oui, voilà, c'est une sorte de rancune. Non, je ne serais pas français, bien que j'habite ici et que j'aime la France, mais voilà.
Voilà.
No problème.
Mais je pense que c'est normal. Attends, je voudrais revenir juste deux minutes.
À ton année de naissance.
Stop, attends. Je voudrais juste revenir deux minutes. À l'époque, c'était comme ça. La loi a changé dans les années 70 sous Giscard. Ma mère, par exemple, elle n'a toujours pas... Ça fait 50 ans, quasiment 55 ans qu'elle vit en France. Elle n'a toujours pas la nationalité française.
Donc, tous les 10 ans, elle est obligée d'aller faire sa carte de séjour ?
Tout le temps.
Oh là là, courage.
Tout le temps. Je ne sais pas pourquoi elle ne l'a pas fait. Elle ne le fait pas. Ouais. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur...
Mais parce qu'à l'époque, je pense qu'on n'avait pas le droit à la double nationalité. Je ne sais pas ce qui se passait. Il y a des pays où on a le droit à la double nationalité. Je ne vois pas pourquoi. En fait, tu renies ni ta mère ni ton père. Hein, ta double nationalité.
Non, par exemple, pour l'Espagne, il faut que tu la demandes. Moi, mon frère et ma sœur l'ont demandé. Moi, je ne l'ai pas demandé. Ma sœur vit en Espagne. Mon frère vit en France. Ils ont la double nationalité. Moi, je ne l'ai pas demandé. Je suis... exclusivement français. J'ai jamais vu l'intérêt de la demander parce que je suis français.
Ah, ben les frontières sont ouvertes maintenant, il n'y a pas
mais
de
non,
problème.
Mais même, je sais pas pourquoi, je me sens pas du tout, j'en sais rien, j'ai jamais fait en même temps, moi, les trucs administratifs, ça n'a jamais été mon truc. Tout ça, ça n'a jamais
attention,
été.
Attention, hein, ça pourrait changer dans quelques années. Hein,
ouais, il faudrait fuir en Espagne, c'est ça. Oh, Marine Le Pen arrive. Mais je vais vous dire un truc.
Ça va barder, là.
Eh, hey, Marine Le Pen arrive, je reste en France. Je vois pas pourquoi on devrait
suivre...
Ah, mais
tu pourras pas aller en Espagne, parce que t'as pas la nationalité espagnole. Donc, je reste ici.
Tu serais, comment dire, on émigrerait en sens inverse et tout, tout ça. Ben non, je vois pas pourquoi je partirais.
Ah, c'est une idée à la mode, ça, la remigration, oui.
Mais je suis... Attends, ouais, non, mais je vais pas rémigrer. Mais... Je suis ici, chez moi.
Ben, j'espère bien.
Voilà, et puis, je vois pas, et puis, si elle passe, eh ben, écoute, on fera avec et on se battra, je sais pas, ce qu'on fera, j'en sais rien, mais on laissera pas faire, voilà, quoi. C'est tout.
Comme dit Vanessa, on reprendra la Bastille.
La Bastille, c'est devenu un centre commercial, chérie.
Ah oui, oui, mais...
tu vas rien reprendre du tout, c'est que des bars. À moins d'aller vider tous les fûts de bière. Donc, en effet, la question de Alex est intéressante. Droit et obligation. Mais bon, c'est quand même un peu pointu, là.
Oui.
C'est un peu pointu. Est-ce qu'on continue
Moi, j'ai un truc sur le cinéma, après, si vous voulez.
Non, mais est-ce qu'on continue deux minutes, Irène, sur... sur tout cet endroit de l'océan Indien que tu connais très bien, est-ce que tu veux continuer à nous en parler? Ça nous intéresse, puisque tu es là ce soir.
Oui, mais bon...
Bah dis-nous quelque chose.
Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été, que je ne suis pas au courant.
Rapproche-toi du micro, chérie.
J'ai dit, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été et que je ne suis pas trop au courant de ce qui se passe. Je ne veux pas trop en parler... Comme ça, faudrait peut-être que j'étudie la question. Mais là...
Mais toi, qu'est-ce qui te semble... qu'est-ce que tu... Enfin, c'est un peu la question primordiale qu'on t'a posée tout à l'heure, c'est qu'est-ce que tu penses de tout ce bordel, quoi, de tout ce qui se passe?
Oui, mais moi,
j'ai... Ah, mais c'est triste, c'est dramatique, parce qu'il y a beaucoup de morts. Nous, on nous parle de tous ces migrants qui arrivent en Italie, mais un peu partout en France. Mais on ne parle pas de ça, mais il y a des morts tous les jours qui traversent et qui... Et moi, je trouve que c'est triste.
Attends, au moins, un sujet dont tu dois connaître un peu quand même la teneur, c'est Madagascar. Madagascar, c'est quoi?
C'est un très grand pays. C'est non, énorme.
Je veux dire, Madagascar, c'est... qu'est-ce qui s'y passe
Oula, Madagascar, c'est le tiers-monde, hein, c'est autre chose encore, Madagascar. Hein.
Ça, pourquoi la population de Madagascar est aussi pauvre? Pourquoi?
Bah parce que, à cause des dirigeants qui sont corrompus. Or qu'on a toutes les richesses qui existent, il y a des plantes, il y a plein de choses qui existent à Madagascar qui n'existent nulle part ailleurs. Mm-hmm. C'est un pays qui a plein de richesses dans tous les domaines, des pierres, des plantes, de tout. Mais tous les gouvernements, ils sont corrompus. Tout, c'est la corruption.
Et on ne peut rien faire contre ça.
On ne peut rien faire. Il y a eu transition il n'y a pas très longtemps.